sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Aujourd'hui, nous observons une sculpture grecque de l'époque hellénistique réalisée vers 200-185. Ludovic Lougier nous dira la vérité, avant Jésus-Christ bien entendu, une sculpture en marbre d'une hauteur totale de 5,60 m, quoique dans sa nouvelle présentation ça sera peut-être autre chose, elle est conservée au Louvre, il s'agit de la célèbre victoire de Samothrace. Comme vous le savez, l'île de Samothrace est située en mer Égée, au large de la côte Thrace, au nord-est de la Grèce, et en mars 1863, c'est le vice-consul de France, Charles Champoiseau, intérimaire à Andrinople, actuellement Edirne en Turquie, et archéologue amateur qui entreprend d'en prospecter les ruines avec l'ambition de trouver de beaux objets pour faire sa cour à l'empereur. Et le 15 avril 1863, en effet, les ouvriers travaillant à l'extrémité de la terrasse qui domine le sanctuaire ouest mettent au jour différentes parties d'une grande statue féminine. Les recherches continuent pour retrouver la tête et les bras, mais en vain. En revanche, de nombreux petits fragments de draperies, de plumages sont soigneusement recueillis et permettent à Champoiseau de suggérer à juste titre qu'il s'agit d'une représentation d'une victoire, d'une niquée, comme on dit. Il envoie en France la statue et les fragments qui arrivent un an plus tard au Louvre, le 11 mai 1864, et c'est devenu la célèbre victoire de Samothrace. Charles Champoiseau, donc notre regardeur.
Je déblayais le seuil d'un grand temple dorique et enfin j'opérais quelques fouilles le long de la façade d'un énorme portique en pierre calcaire. Pendant que les ouvriers étaient occupés à ce dernier travail, mes yeux s'arrêtèrent sur un très beau fragment de marbre blanc, émergeant à peine du sol, que je reconnus, après l'avoir déterré moi-même, être un sein de femme du plus admirable travail. Des recherches furent immédiatement pratiquées et amenèrent bientôt au jour la statue de la victoire, couchée sous deux pieds de terre et de cailloux, que les travailleurs vinrent m'annoncer en criant « Monsieur, nous avons trouvé une femme !»
Champoiseau précise d'emblée que le corps est presque intact. Il prospecte les alentours pour retrouver la tête et les bras de la statue, mais en vain. Il découvre cependant de nombreux fragments, dont des fragments d'ailes, qui lui permettent d'identifier la statue comme étant une victoire. Et il l'envoie à Paris, où elle arrivera un an plus tard. En 1875, lors d'une campagne menée par des archéologues autrichiens, l'architecte Alois Hauser s'intéresse au renfoncement où avait été trouvée la victoire. Il entreprend le relevé des différents blocs aux formes bizarres laissés par Champoiseau et réalise qu'ils représentent l'avant d'un navire de guerre. Il fait alors le rapprochement avec des monnaies d'époque qui représentent une victoire posée sur l'avant d'un navire et il acquiert ainsi la certitude que ces blocs constituent la base de la statue. Champoiseau, mis au courant de ses recherches, déploie tous ses efforts pour que les blocs de la base rejoignent la statue à Paris. Il y parvient en juillet 1879 et les blocs mettent 3 mois et demi seulement pour arriver au Louvre.
Vous connaissez tous, je crois, la victoire de Samothrace, l'admirable sculpture de la déesse qui retient au sommet du grand escalier du Louvre des hordes de visiteurs, nouveaux dévots qui la saluent avec cet insistant rituel photographique qui s'est imposé à notre époque laïque. Sa silhouette infiniment diffusée vous est familière et pendant que je vous parle, vous vous la remémorez. Elle est debout, dressée sur la proue d'un navire, légèrement tournée vers sa droite. La draperie diaphane dont elle est vêtue est à la fois gonflée par le vent turbulent et plaquée sur son corps, révélant une profonde sensualité accentuée par l'allongement des proportions et l'évasement des formes sous sa poitrine. C'est la sensualité d'un corps féminin, vu sous le voile d'une tunique qui ruisselle sur le ventre, révèle le nombril distendu par la rotation du buste, tandis que les plis emportés par l'élan de la jambe droite avancée s'amassent entre ses membres et s'étirent sur la gauche en révélant le galbe de sa cuisse. La vitalité de la déesse en plein essor et la puissance des énergies naturelles qui l'enveloppent associent en une seule figure le souffle divin et la force de la nature, celle des embruns et du vent marin dont l'haleine agite la robe comme il couche les arbres ou épuise les roches qu'il façonne. Les deux ailes d'Athéna, lancées d'un seul jet, en porte-à-faux vers l'arrière, animées par de longues rémiges, participent à l'effet dynamique de la sculpture. Plumes battantes, claquement des étoffes, tumulte des vagues qui cognent contre la coque, le visiteur qui laisse aller son imagination entend encore la rumeur de cette ultime métamorphose de la déesse, apparition encore sacrée des grands dieux de la Grèce qui va bientôt les oublier. Sur le bateau qui la porte, elle ne marche pas. Elle achève son vol, se pose peut-être, mais à peine le pont effleuré, elle s'éloigne déjà, abandonnant les hommes aux caprices de leur destin. Et pourtant, par cette légèreté apparente, l'artiste réalise son ultime tour de force, puisqu'il utilise les 3 tonnes de cette victoire qu'il a su faire paraître si légère pour prévenir le navire de sa désintégration. C'est en effet ce poids qui retient le marbre, qui compose la coque du bateau, et dont la couleur gris-bleu, veinée de blanc, imite l'eau et l'écume. Et l'on comprend que derrière ce prodige technique, c'est-à-dire le maintien de la structure du navire de pierre par l'effet de la pesanteur de la divinité qu'il porte, se glisse aussi la signification profonde de l'œuvre. La déesse, par sa présence d'un instant, empêche la dislocation du navire. Et soudain, toutes les constructions des hommes paraissent retenues par le miracle de ses interventions divines, nous interrogeant à notre tour sur la fragilité de nos civilisations au moment de la disparition des dieux que nous nous étions choisis.
Je n'oublierai jamais l'impression que je ressentis lorsque je vis pour la première fois cet arrangement provisoire et la victoire debout, fièrement campée sur son piédestal dont elle était séparée depuis tant de siècles. Héron de Villefosse, 1892.
Pour parler de cette œuvre, je reçois dans notre émission l'artiste Régnier Le Ricollet. Bonjour Régnier.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Bon, donc votre travail explore principalement les liens entre art plastique et musique. Hein. Vous faites une sorte de sampling parfois, vous mélangez des techniques, vous essayez de tromper au fond l'usage ordinaire des matériaux. Vous...
Oui, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Est-ce que le sampling est encore au goût du jour ? Je ne suis pas sûr, mais il y a cette idée-là. Vous dire,
Il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser, on va en parler tout à l'heure, à cette grande sculpture que nous regardons ensemble, en particulier vos moulages d'eau de mer, enfin des moulages comme s'il fallait mouler les vagues, hein, c'est assez intéressant, étrange. Et il y a aussi les peintures que vous faites avec de l'eau, peindre avec de l'eau, c'est exact, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Et on va parler de tout cela ensemble. Et je suis également en compagnie de Ludovic Laugier. Ludovic, vous êtes historien d'art, chercheur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre, c'est très prestigieux. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Vous êtes également l'un des 3 commissaires de la restauration de la victoire de Samothrace avec Marianne Amiot et Jean-Luc Martinez, votre président désormais. Donc je suis ravi de vous avoir pour essayer de comprendre ce que l'on peut découvrir de nouveau sur cette victoire. Mais Régnier Le Ricollet, vous avez observé, j'imagine, dans votre vie à plusieurs reprises cette victoire, soit à travers les traits de celle d'Yves Klein, celle qu'il a réalisée en 1962, ou bien l'original elle-même. Bah,
plutôt l'original, on va dire.
Et cette célébration de la mer vous inspire ?
Oh, est-ce que c'est la sable ? Non. Puis c'est pas vraiment la mer qui est important, autrement la mienne peut-être. Mais non, ce qui est important, c'est ces histoires d'eau. C'est un truc bizarre, je trouve. Ces histoires d'eau qui font que ce qu'on vient d'écouter, un objet en supporte un autre pour l'empêcher de le faire tomber. Alors ça, c'est quelque chose qui peut commencer à m'intéresser, puisque s'il n'y en a pas un, l'autre n'existe pas, et si l'autre n'existe pas, l'autre n'est pas là non plus. Donc c'est comme essayer de de mouler de l'eau.
C'est comme essayer de mouler de l'eau, vous avez
absolument
raison. C'est s'opposer comme ça à la... à la métamorphose permanente des choses pour les arrêter.
Pour les arrêter d'une façon un peu photographique, justement. J'ai entendu ce terme dans l'archive qui vient de passer. C'est vrai que l'idée d'enregistrement, pour revenir à quelque chose qui a à voir avec la musique, cet enregistrement figé de, que ça soit une sculpture ou peindre avec de l'eau, comme j'essaye de faire, c'est quelque chose qui est contradictoire, donc qui peut commencer à intéresser, sinon moi, peut-être d'autres.
Alors Ludovic Laugier, vous qui êtes historien, qui travaillez sur cette victoire de Samothrace aussi bien au sens physique qu'au sens intellectuel, puisque vous l'étudiez et vous participez à sa réinstallation, je pense que nos auditeurs ne savent pas tous que c'est un ex voto. Est-ce que le mot est juste ?
C'est probablement une dédicace, un ex voto. La difficulté, c'est qu'en fait... nous n'avons pas l'inscription. Ce qui qualifie une dédicace ou un ex voto, c'est l'inscription dédicatoire qui va dire tel personnage, tel citoyen ou tel monarque dédie une œuvre aux divinités, en l'occurrence au grand dieu de Samothrace, pour telle circonstance. Hélas, ce témoignage-là nous fait défaut, sans quoi on serait bien arrangé.
Mais vous avez deviné de quoi il s'agissait.
Alors on peut dire les choses déjà prosaïquement. Une statue... de la déesse Niké, de la déesse Victoire, saisie au moment où elle pose le pied sur un navire dans une dernière enjambée, un navire de guerre, c'est probablement lié à une victoire navale. Oui. Quelqu'un a voulu commémorer une grande victoire navale, sachant qu'à l'époque hellénistique, les conflits pullulent, et comme c'est un monde marin,
oui,
les batailles navales sont nombreuses.
Chacun essaye d'être Thalasso.
Socrate, exactement. En fait, oui. Alors qui des Lagides, des Antigonides, des Attalides, de tous ces ides fut le dédicant de la statue ? On en discute et on n'a pas fini d'en discuter. Ce sont peut-être, on a longtemps cru que c'était les Rhodiens, parce que leur flotte était très puissante. Peut-être un petit peu plus compliqué, les Rhodiens étaient alliés aux Pergaméniens et aux Romains. Et peut-être qu'il y a là plutôt le jeu d'une alliance.
Alors, juste pour qu'on se situe, Rhodes, c'est une république ?
Non, pas une république au sens où on l'entend aujourd'hui, mais c'est une cité
puissante
avec une flotte elle-même très puissante.
Dont les artistes ont su faire le fameux colosse, ça veut dire une
exactement.
Maîtrise technique extraordinaire.
Ouais. Et dont les ateliers étaient aussi spécialisés dans certaines bases. Le bateau de la victoire de Samothrace est en marbre de l'Arthos, c'est un marbre rhodien.
Alors que la victoire elle-même est en marbre de Paros.
Exactement, en marbre de Paros. Ça nous dit moins de choses, parce que le marbre de Paros, c'était le plus beau marbre, donc tout le monde l'utilisait. Ça ne veut pas dire que la victoire est elle-même sortie d'un atelier parien. Ça veut dire que l'artiste qui l'a réalisé a voulu le meilleur marbre pour son commanditaire et pour la dédicace en question. Donc dans l'histoire, il y a probablement les Rhodiens pour la base,
oui.
Mais est-ce que ce sont vraiment les dédicants ? Ça, on ne peut pas le dire.
Parce que ce n'est pas forcément le même artiste qui a fait la base et la victoire elle-même. Et il y a beaucoup d'énigmes sur l'artiste en question.
Il y a beaucoup d'énigmes parce qu'encore une fois, les inscriptions font défaut. Il n'y a pas non plus de témoignage littéraire. Il n'y a pas de témoignage de Pausanias, il n'y a pas de témoignage de Pline qui puisse nous dire, comme pour d'autres œuvres, elle a été faite par un tel ou par un autre. On est obligé de jouer au jeu des devinettes. On peut imaginer que, puisque la statue fonctionne très bien avec le bateau dont elle assure pratiquement la stabilité, il y a un maître d'œuvre. Il y a un concepteur génial à l'origine de tout ce monument.
Oui.
Mais celui-ci a joué sur plusieurs compétences, sur plusieurs ateliers. Il a conçu sa propre statue et il a fait appel à un atelier de Rhodes, spécialisé, lui, dans l'édification de la base qui est montée de 23 blocs. Il y a 30 tonnes de blocs, là. Donc c'est quelque chose de
quand je parlais de 3 tonnes tout à l'heure, il s'agissait donc que de
la statue.
3 tonnes, c'est que la statue qui repose sur sa base.
Alors on l'a repesée.
Oui.
En fait, elle est plus légère que cela. Elle pèse moins de 2 tonnes et elle est posée sur un bateau qui lui pèse 27 tonnes et demie.
Peut-être qu'un jour, Régnier Le Ricolet, vous ferez des œuvres de ce poids-là.
Non.
C'est pas une ambition. Hein.
C'est pas une ambition, mais par contre, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce qu'on vient de raconter, c'est qu'on sait rien. Oui. On sait vraiment pas grand-chose. Et en même temps...
Le conservateur en question ne nous a pas encore tout dit.
Il va nous faire des révélations, et puis on se fait aussi une opinion.
Mais on suppute.
Et j'aime bien ce mot-là. Mais il y a quelque chose vraiment... comment, je pense que chaque personne va aller vers ça pour justement regarder et puis essayer de chercher. Alors je sais pas comment fonctionnent les conservateurs, je sais pas comment vous allez vers cette histoire là, comment on redécouvre des choses, puisqu'il n'y a pas d'écrit. Il y a très peu de traces, on a juste un objet. Et ça, on peut aujourd'hui, j'avais l'impression aussi d'un espèce de discours contemporain artistique comme ça, où on parle finalement plus que du poids, de sa valeur, ou des choses qui sont pas très intéressantes, quoi, finalement. Mais j'aimerais bien aller dans un truc un peu plus intéressant, dans le sens déjà quelque chose de technique, oui. Parce que c'est vrai que c'est un truc totalement incroyable.
C'est d'une virtuosité folle, Ludovic Laugier ?
Réellement, il y a deux titres. Marianne Amieux l'a très bien expliqué dans les ouvrages qu'elle a écrits sur la victoire. Il y a deux choses qu'on confond ou qu'on mélange quand on parle de chef-d'œuvre. Évidemment que la statue en elle-même, vous l'avez bien décrite, c'est une virtuosité folle de drapé bouillonnant, de drapé plaqué sur le corps, et ça, tout le monde le perçoit bien. Mais monter tout le monument et faire en sorte que tout ça tienne ensemble, la statue est réalisée de 6 blocs différents. C'est un puzzle, elle-même. Oui. Les ailes, les bras, le corps est en deux parties.
Avec des porte-à-faux compliqués.
Donc il y a aussi un tour de force en termes de statique. Et puis cette statue elle-même, elle est posée sur un bateau, qui est un Lego de plusieurs blocs, et elle aide à sa stabilité. Donc, il y a toute une inventivité qui est celle des anciens quand ils devaient construire un temple, quand ils devaient élever un monument complexe, et ils le faisaient pour différentes raisons, ils le faisaient pour les dieux. Oui. Un ex-voto, c'est offert aux dieux pour rendre grâce, et donc il y a là une marque de piété. Ils le faisaient aussi pour montrer leur excellence, l'excellence de leur cité, donc se confronter un peu les uns aux autres. Il y a l'idée de dire j'ai fait mieux que quiconque, j'ai fait comme tu n'aurais pas imaginé que je pourrais faire. Dans ces sanctuaires qui étaient des sanctuaires communs, tous les Grecs, celui de Samothrace, celui d'Olympie, celui de Delphes, il y avait une compète, il faut dire les choses. Dans ce secteur-là, il y avait d'autres monuments très ruinés aujourd'hui.
C'était des marchés aussi.
Qui étaient très impressionnants, et il fallait subjuguer pratiquement le visiteur en disant voilà, on vient d'offrir cet ex-voto au dieu, et il surpasse tous les autres.
Mais c'est quelque chose aussi, c'est bizarre, c'est assez étrange pour moi d'entendre le mot chef-d'œuvre, parce que j'ai plutôt le sentiment, peut-être, hein, là, je suppute encore une fois, j'ai plutôt le sentiment que on représente quelque chose. Comme vous venez de le dire, c'est des espèces de concours comme ça. Mais est-ce qu'on est dans l'idée de chef-d'œuvre à cette période-là ? Je suis pas sûr. Le chef-d'œuvre vient un peu plus tard. L'idée du chef-d'œuvre.
Dans votre travail, vous êtes dans l'idée de chef-d'œuvre parfois ?
Non, absolument pas. Pourtant, je suis plutôt dans l'idée de ratage, moi. Pas du tout de chef-d'œuvre.
Est-ce que le ratage est dans votre travail une occasion d'invention ? Par exemple, vous avez fait une invention technique très particulière. Mouler la mer, c'est quand même quelque chose de très particulier. Racontez-nous comment vous l'avez fait.
C'est d'une façon très très simple. C'est justement, il n'y a pas de chef-d'œuvre, il n'y a que du ratage, et c'est par le ratage que je viens plutôt dans le travail et dans l'expérimentation. L'idée de mouler de l'eau vient de 4 heures du matin dans une cuisine en fumant beaucoup de clopes, quoi. Non, c'est essayer de fabriquer quelque chose qui est totalement improbable, finalement. Et c'est pour ça que la victoire, même si je découvre un peu plus l'histoire aujourd'hui, peut se relier à ce que je peux faire, parce que c'est quelque chose qui est, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait qui ferait que, normalement, ça marche pas. Et puis là, ça marche.
Alors là, l'artiste dont nous parlons, cet artiste inconnu qui a fait la victoire de Samothrace, il a essayé de faire quelque chose qui aurait pu ne pas marcher, c'est-à-dire des porte-à-faux très compliqués, une expression finalement qui est, vous allez peut-être affirmer cela, Ludovic Laugier, assez unique pour son époque. C'est une apparition d'une écriture nouvelle
pas réellement. La question, c'est peut-être l'ambition de l'œuvre, mais elle s'inscrit dans un style qu'on connaît par ailleurs. Notamment pour les hauts-reliefs de l'hôtel de Pergame, qui sont une sorte de machinerie immense, une gigantomachie, les dieux
donc
contre les géants, le chaos cosmique.
Donc c'est les hauts-reliefs que vous trouvez au musée de Berlin,
Pergamon Museum.
Pergamon, mais qui sont postérieurs, non ?
à peu près de la même période, à un demi-siècle près. D'ailleurs, on discute beaucoup pour dater l'un par rapport à l'autre.
50 ans près, dans le monde de l'art contemporain, ça fait une sacrée différence.
Mais pour nous, c'est rien.
Pour vous, c'est rien, les
non, non, mais juste alors, on discute beaucoup pour savoir si l'un précède l'autre ou vice-versa. L'hôtel de Pergame, c'est ce qui accroche la date, en bonne partie, de l'œuvre d'un point de vue stylistique. On cherche des batailles pour avoir une fête.
Juste simplement pour préciser, cette impression stylistique à laquelle vous pensez, c'est celle qui se caractérise par des corps qui apparaissent nettement sous des drapés, qui en général sont très expressifs et qui participent à la dramaturgie générale de l'œuvre.
Dramaturgie, c'est le terme. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui sont des mises en scène. On saisit une œuvre au moment, enfin une statue, une Niké, une victoire, au moment où elle atterrit précisément sur le bateau, il y a une forme d'instantanéité, c'est un moment arrêté. Dans l'art grec, ça ne s'est pas toujours pratiqué, c'est vraiment propre à l'époque hellénistique au sens large. Et puis, c'est ce bouillonnement des étoffes, le fait que par endroits, elles accrochent beaucoup la lumière, par d'autres, elles sont plaquées sur le vêtement, donc la lumière glisse. Cette espèce de contraste dans les effets plastiques. Pendant longtemps, on appelait ça le baroque hellénistique. Le terme est un peu suranné, mais il dit quelque chose. On l'a employé par...
Simplement pour préciser, Ludovic Laugier, contredisez-moi si c'est le cas. L'art hellénistique grec, c'est donc la dernière grande période de l'art grec, beaucoup plus expressive et descriptive que les précédentes, plus réaliste probablement, très souvent décriée au début du XXe siècle, alors que ça fut très admiré dans les siècles précédents, puisqu'on peut dire que l'histoire moderne européenne, occidentale, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle, a découvert l'art grec par l'art hellénistique, qu'il a vu en particulier à Rome, je suppose, en Italie en tout cas. C'est à peu près cela, n'est-ce pas?
C'est à peu près cela. Dans un premier temps, ce que les modernes ont vu, c'est de l'art hellénistique, sans le savoir.
Le plus célèbre, c'est le Laocoon, peut-être.
Le Laocoon, effectivement.
Qui avait été vu par Michel-Ange au moment de son ouverture, de sa découverte. Ouais.
Et c'est ça que les modernes ont vu en premier pendant la Renaissance, mais en pensant que c'était l'art classique grec. Et puis après, le filtre des études a fait que c'est devenu l'art hellénistique. En tout cas, ce sont ces machineries. Et ça, c'est vraiment très impressionnant de constater cette volonté de subjuguer le spectateur. Il y a de la mise en scène, et il y a même de l'illusionnisme. Vous savez que la victoire de Samothrace était faite pour être vue de trois quarts sur le site.
Oui.
Aujourd'hui, on a cette vision systématiquement axiale qui est celle de l'escalier. Mais c'était un monument qui était implanté de trois quarts dans un espace défini. Et quand on le regarde bien, au moment où on le restaure, on se rend compte qu'il est parfaitement achevé là où il était visible. Sur le trois quarts qui n'était pas visible.
Un peu plus paresseux, peut-être.
La sculpture est ébauchée. Vous voyez, donc c'est pour ça que je parle aussi de mise en scène.
Ce baroque dont nous parlons, Régnier de Ricolet, vous intéresse cette sorte de façon de capturer la vitalité des choses, la vitesse du monde en mouvement
Oui, bien sûr que c'est intéressant, mais c'est pas nouveau, je veux dire. On en parle là, on en a encore parlé avec les futuristes, on en reparle avec beaucoup d'artistes contemporains, donc je pense que c'est même plus c'est plus quelque chose qui est ancré dans notre culture. Je vais dire, si on a des voitures qui roulent vite aujourd'hui, c'est bien qu'on en a envie.
Participer au dynamisme du monde,
même
pensez-vous?
Si je déteste ça, je préfère l'avion, ça va beaucoup plus vite. Mais est-ce que c'est le dynamisme du monde? Est-ce qu'on recule pas? J'en sais rien. Tout ça, c'est des questions qui sont toujours un petit peu étranges.
Est-ce que vous avez fait les Beaux-Arts?
Oui, j'ai fait les Beaux-Arts.
Est-ce qu'on vous parlait de l'art grec à ce moment-là?
Oui, on en a parlé très peu, mais bien sûr qu'on a des cours.
Est-ce que ça veut dire que ça vous a paru, vous qui êtes un artiste assez jeune, est-ce que ça veut dire que ça vous a paru inutile pour vous, ou au contraire inspirant? Tous les artistes jusqu'au début du 19e siècle regardaient cela, on pourrait même dire jusqu'à Giacometti, au moins.
Hein, et
les artistes.
Fontana, visiblement aussi. Hein.
Fontana, pas mal, ouais, mais pas à cause de l'aspect néoclassique de son travail à un moment donné, au début de sa carrière, dans les années 30. Mais est-ce que c'est une inspiration qui a une validité encore aujourd'hui?
Ben, ça a une validité pour moi, parce que dans chaque exposition, y a toujours quelque chose que je regrette de ne pas voir. Et pour ça que je revenais sur Fontana, où je m'aperçois que quelqu'un comme Fontana peut à la fois faire un geste ultra conceptuel, prendre un cutter, taillader une toile, et puis d'un autre côté, On est dans le visage, on est dans de la poterie, on est dans du crocodile, dans du crabe, et pratiquement ça au même moment. Et c'est vrai que moi j'ai toujours mis du visage à l'intérieur des expositions, même si la dernière est très, je dirais abstraite entre guillemets, puisque est-ce que le terme est bon pour moi, je crois pas. Mais pour parler à l'aveugle, encore une fois, c'est quelque chose qui est plus juste. Et ce visage-là, là pour une fois, intervient d'une façon assez simple par le collage. Mais plus que ça, moi ce qui m'a toujours impressionné, c'est plutôt comment le romantisme va aller chercher chez les Grecs, comment c'est vrai que j'ai regardé même cet art-là à partir du 19e.
Mais vous avez raison, parce que ce sont les romantiques qui ont découvert pour une partie l'art grec. D'ailleurs, si vous me permettez une transition qui est parfaite, c'est qu'en 1869, c'est-à-dire au début du romantisme, Fröner donc nous fournit la première description de la statue de la Victoire dans le catalogue de la sculpture grecque du Louvre. Et donc, nous allons l'écouter.
Magnifique statue colossale d'une victoire ailée et drapée qui probablement portait un trophée. Le sculpteur l'a représentée au moment où, venant du haut du ciel, elle touche la terre. La partie supérieure de son corps était donc penchée en avant et les ailes formaient le contrepoids. La draperie de la déesse est presque transparente. Bien qu'elle date de l'époque des successeurs d'Alexandre, cette admirable sculpture se rapproche tout à fait du grand style de l'école de Phidias. Rien de plus hardi que le mouvement du chiton, fouetté par le vent, et dont la disposition n'a presque pas d'analogie dans l'art ancien. On ne saurait comparer à ce marbre qu'une statue du Parthénon et le torse de la seconde fille de Niobé au musée du Vatican. Wilhelm Fröner, notice de la sculpture, musée impérial du Louvre, 1869.
Il faut que je vous pose une question, Ludovic Laugier, parce qu'on aurait peut-être dû commencer par cela. Vous vous doutez que j'ai très envie que vous nous fassiez des révélations sur ce que vous avez découvert en démontant et en remontant cette fameuse victoire de Samothrace dont nous parlons, mais simplement quelques mots. Samothrace, pourquoi Samothrace? Qu'est-ce qu'était Samothrace? Quelle était l'importance de Samothrace à l'époque de cette victoire? Pourquoi un tel effort et un tel monument sur cet îlot?
Un îlot sacré, un îlot singulier en fait. L'île de Samothrace est sur la route de la mer Noire, donc de toute façon, d'un point de vue stratégique, c'est une île importante. C'est surtout l'emplacement du sanctuaire des grands dieux, avec des majuscules, Megaloïtéoï, les dieux de culte à mystère, qui sont restés d'ailleurs mystérieux, on n'en connaît que la surface des choses. Il y avait là des initiations qui étaient très fameuses, parce que non seulement les hommes pouvaient se faire initier, mais les femmes aussi, et c'est pas toujours donné dans le monde grec, les gens libres, les esclaves, tout le monde. Et on pouvait y aller et se faire initier sur tout le processus en une fois. Donc c'est des mystères qui ont eu un succès considérable, autant que ceux d'Eleusis qui sont plus connus. Et les initiés étaient protégés par les grands dieux. Et parmi les initiés, il y avait beaucoup de marins. Donc l'idée, c'est la suivante, c'est que certains venaient rendre grâce, alors soit le plus simple des fidèles qui apportait un hameçon parce qu'il était pêcheur, on a retrouvé des quantités d'hameçons à Samothrace, soit un monument extraordinaire qui avait mobilisé tout un atelier, un sculpteur de renom probablement, et dans ces cas-là c'était une grande monarchie hellénistique qui pouvait dire « j'ai remporté telle victoire navale, j'ai changé la face du monde pour 2 ans peut-être ». et j'offre ce monument à côté de celui de mon adversaire qui en a fait un autre, d'une autre forme.
C'est ces démons des mystères donc protégeaient les marins.
Oui.
Hein, vous savez entre autres. Platon, je crois, disait il y a trois sortes d'hommes, il y a les morts, les vivants et les marins.
C'est ça.
Hein, donc, ce qui veut dire que ça avait une importance considérable dans le monde grec d'alors. Et les initiés dont vous parliez recevaient, je crois, en signe de leur initiation, une bague en magnétite, en aimantée, comme
ah
ça.
Ah oui, alors on discute beaucoup de ces bagues. Il y en a quelques-unes qui sont présentées dans les vitrines du musée de Samothrace.
Oui.
Alors on recevait une écharpe de pourpre qui devait dire que vous êtes initié, qui devait aussi vous protéger. Et puis cette bague, il y a toujours, d'ailleurs on les voit, des affleurements rocheux dans le sanctuaire qui sont des roches multicolores qu'on vénérait pour leur magnétisme. Alors elles structurent le sanctuaire, et puis on recevait ce type de bague. Alors c'est amusant, l'été dernier, je discutais avec les fouilleurs américains de Samothrace, qui avaient fait venir un géologue, qui ressemblait un peu à une sorte de professeur géotrouve-tout, et qui cherchait les filons de roches magnétiques. Et un jour, il est arrivé dans la maison de fouille, surexcité, en nous disant « I got it, c'est du sable, j'étais sur la plage, et je me suis rendu compte que le sable d'une des plages de Samothrace, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas une île très, très confortable pour la baignade, ce sable présente une forme de magnétisme, donc les alluvions ont dû emmener progressivement des roches magnétiques jusque-là, et c'est avec ce sable, peut-être, c'était l'hypothèse du moment, je ne sais pas si depuis il l'a affirmé, confirmé, c'était comme ça dans le cours de la journée. C'est peut-être ce sable qui a servi. En tout cas, il y a vraiment là un mysticisme très particulier qui était très important dans le monde grec. Il y a aussi une autre raison. C'est que le sanctuaire devient important à l'époque hellénistique parce que le père d'Alexandre le Grand craque pour la mère d'Alexandre le Grand dans le sanctuaire. Philippe II de Macédoine et Olympias, c'est là que ça se passe.
C'était là. Donc il y a une histoire d'amour.
Et la face du monde en fut changée, quand même.
Bon.
Mais du coup, pour être plus sérieux et revenir à mes fonctions louvresques, ce qui s'est produit, c'est que la dynastie en question a voulu marquer justement cet événement et donc a protégé de son patronage le sanctuaire. Et comme on sait qu'Alexandre le Grand a ensuite fondé un empire, que se sont partagées les grandes dynasties hellénistiques, chacun a voulu tirer une part de cette histoire vers lui, en disant « mais nous aussi, bien sûr, à la suite d'Alexandre, à la suite de son père, nous protégeons le sanctuaire, Ptolémée offre les Propylées, Arsinoé offre la plus grande rotonde du monde grec, etc. etc. » Donc, c'est à la fois un sanctuaire très beau, c'est à flanc de montagne, il y a des torrents qui coulent, c'est d'une végétation magnifique, les bâtiments étaient entrelacés, vous passez de l'un à l'autre par une voie sacrée qui monte, qui descend, c'est les montagnes russes, on est aujourd'hui encore saisi par ça. Et c'est un sanctuaire dont le mysticisme est frappant, et en même temps, c'est un enjeu historique, c'est un enjeu politique pour ces gens-là.
C'est un pré-Venise, quoi.
Régnier le Ricolet.
C'est un pré-Venise.
Ouais, c'est un pré-Venise.
On tombe amoureux, là.
Régnier le Ricolet, vous avez remarqué qu'il manquait quelques éléments à cette sculpture. Bras, tête.
Le fragment.
Ludovic Laugier est parti là-bas pour essayer de retrouver la tête que vous n'avez pas retrouvée, je crains. Non.
Hélas.
Pas retrouvée encore. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée du fragment? C'est quelque chose qui travaille.
Depuis un grand moment. Le fragment, on en revenait tout à l'heure. Est-ce que je posais la question sur l'idée du sampling? Le sampling, c'est du fragment. Moi, tout mon travail, c'est que du fragment. C'est peut-être du fragment raté, mais
qu'est-ce que le fragment ajoute à une œuvre qui aurait été complète?
Je pense que le fragment
est un plus, c'est pas un moins.
C'est ce que je pourrais aimer dire, c'est que le fragment est un plus. Pourquoi? Non, ça aurait été une catastrophe de retrouver la tête. Ça aurait été une catastrophe.
Vous avez raison, mais je pense qu'il en rêve, Ludovic Laugier, de la retrouver.
Vous savez quoi? Paradoxalement, je suis d'accord. Je devrais être celui dans la conversation qui...
Votre carrière en serait changée.
Vous
prendriez la place de Jean-Luc Martinez dès demain, je pense.
La route serait plus longue. Mais il faut savoir une chose, c'est que tous les étés, quand les Américains arrivent à Samothrace, accueillis par leurs collègues grecs, et que la campagne de fouille s'ouvre, les Américains disent comme une sorte comme ça de slogan, cette année, on trouve la tête, il plaisante parce que tout a été quadrillé dans tous les sens et qu'on ne la trouvera pas. Mais moi, je sais que quand je les ai entendus dire ça, j'ai souri, j'ai compris leur enthousiasme et je me suis dit, pourvu que non.
Donc vous êtes d'accord avec Régnier Le Ricolet?
Non, parce que si on la trouve, on la trouve comment?
Oui,
trouver la tête, c'est une chose.
Très décevante.
Alors, elle pourrait être décevante, j'en doute, parce que je pense qu'elle devait être à la hauteur du reste, mais elle est peut-être cassée en deux, peut-être qu'elle est complètement épouffrée, peut-être qu'elle serait un regardable.
Complètement fragmentée.
Régnier Le Ricolet, vous n'en voulez surtout pas de vous non plus, cette tête.
Je... Je l'aime bien comme ça.
Ouais.
Je l'aime bien comme ça parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus de justement l'idée de fragment. On va reparler de Barthes, hein, le fragment d'un discours amoureux, c'est quand même quelque chose qui moi m'a passionné. Et puis là, cette idée de rencontre amoureuse, c'est quelque chose qui est ultra contemporain aujourd'hui. On parle par fragments, on écrit par fragments et on regarde des choses uniquement par fragments. D'où ça vient tout ça? Est-ce que ça vient pas de là finalement?
L'indétermination. Parfois, lorsque vous travaillez sur des peintures, d'ailleurs, il faudrait que vous nous parliez de ces peintures que vous faites avec de l'eau ou bien avec un pistolet à colle, vous faites quasiment fondre des images, etc. Donc vous effacez ou vous déformez, il y a quelque chose qui va se faire dans l'esprit du regardeur qui va être transformé par la disparition ou la dissolution de l'image, non ?
Alors il y a deux choses, effectivement. La première chose, c'est ce qu'on évoque là, les dessins à la colle. Les dessins à la colle, c'est simplement le fait de dessiner sur des pages de magazine. Et en fait, avec de la colle chaude, avec un filet de colle, et je remonte d'une façon dans une baignoire, encore avec des histoires d'eau, puisqu'il faut je la décolle à l'eau.
Ouais, oui.
Je remonte un fragment d'une image, mais un fragment qui est de 10%. C'est même pas la victoire, c'est vraiment c'est un tout petit fragment.
Il y a ailleurs dans une vitrine un bout de main, hein, de la victoire. Voilà. Donc,
par rapport à ça, l'image est toujours là.
Oui.
L'image est toujours présente, même si il y a mon geste du dessin. L'image est toujours présente et même si encore une fois il manque 90% de l'image. Donc je pense qu'il y a un peu à voir avec toutes ces idées, justement, qu'est-ce qui est préservé, qu'est-ce qu'on a archivé, qu'est-ce que c'est que cette idée de fragment. Moi, vraiment, quand on parle de ça, j'ai l'impression de... Voilà, c'est ma petite fille qui va écrire des textos. Elle écrit en fragments également. Donc finalement... Est-ce qu'on n'est pas dans l'ultra contemporain? En tout cas, on est vraiment aujourd'hui avec. Je ne sais pas comment vous faites, mais quand je regarde quelque chose sur Internet, c'est pire que la télé. On va beaucoup plus vite. Et je pense que c'est toujours intéressant de remontrer ça, de remontrer qu'est-ce qui se passe vraiment aujourd'hui sur l'idée de regarder les choses encore.
Alors, il y a peut-être quelque chose de plus vif qui naît lorsqu'on a affaire à un fragment, parce que on rend actif à nouveau la complétude ou mentale comme ça que l'on doit faire sur l'œuvre. Alors figurez-vous, Ludovic Laugier, que en 1933, on annonçait déjà la nouvelle présentation de la victoire de Samothrace. Nous allons écouter cela.
Nous avons assisté vendredi à cette opération délicate qui a eu lieu en présence du conservateur des antiquités gréco-romaines, M. Michon, son adjoint M. Merlin et l'architecte. Le vaisseau, qui pèse 8 tonnes, avait déjà été avancé de 1,60 m il y a un mois. La victoire, qui pèse elle-même 5 à 6 tonnes, était depuis ce temps emmaillotée dans une espèce de benne et suspendue dans le vide par un treuil. Le travail qui consistait à faire glisser l'énorme masse pour la placer mieux sur son socle dura plus d'une demi-heure et fut mené avec un soin particulier, car il ne faut pas oublier que la statue de la Victoire a été trouvée par Champoiseau en 1863 sur la plage de Samothrace, brisée en 238 morceaux. Paris Soir, dimanche 22 janvier 1933. En haut de l'escalier d'Aru, dégagé, la victoire de Samothrace semble s'envoler à travers le temps et l'espace. La sobriété utopique de sa présentation actuelle, dans une région débarrassée de tout moulage, ne lui nuira pas. Au contraire,
car elle fait valoir ce qu'il y a de classique encore, parfois injustement méconnu, dans l'allégorie aérienne de la victoire sonnant sur les eaux un triomphe de bataille marine. Les ailes frémissent, plus allègres. On oublie mieux, grâce au socle récemment rajusté et qui jadis existait au vrai ainsi que la publication autrichienne en témoigne, la fatale mutilation des pieds. On n'a pas osé monter l'ensemble sur plaque tournante, ce qui eût permis la présentation par le travers, tel que les monnaies l'attestent. Mais il suffit d'apercevoir, du bas des marches, l'effet obtenu pour en sentir la probité, la qualité. Gilbert Charles Picard, Courrier de l'Art antique, 1934.
Alors, Ludovic Laugier, on entendait cette annonce de la présentation en 1933-34 d'une nouvelle présentation de la victoire de Samothrace. Vous êtes en train de travailler sur celle-ci. Il y a des nouveautés dans cette présentation. Vous avez changé quelque chose, vous avez découvert quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a plusieurs choses. Il y a des constantes et des nouveautés. Ce genre d'opération, ben, engage à l'humilité. On n'est pas les premiers à travailler sur la victoire de Samothrace. On n'est certainement pas les derniers. Donc, il faut laisser parler l'œuvre et il faut reprendre son histoire. On parlait tout à l'heure du fragment. Il y a une constante dans la présentation de la victoire de Samothrace, c'est qu'elle n'a jamais été entièrement complétée. L'histoire est longue, hein. En 66, on l'a présentée une première fois dans la salle des Caryatides. On ne savait présenter que le bas du corps. On ne savait pas encore agencer le buste, les ailes.
Les ailes, oui.
Et ce qui est très intéressant à l'époque, c'est que les meilleurs amateurs d'antique remarquent ce fragment-là. Ça n'a rien à voir avec la démonstration.
Ça veut dire que, quand même, l'œil était déjà convaincu et voilà, tout de suite.
Mais les bons antiquisants, c'est-à-dire oui. Y a des gens qui s'arrêtent et qui disent ce fragment-là, qui ne ressemble absolument pas à ce que nous connaissons, c'est magnifique. Et puis, en 1883, Ravaisson-Mollien comprend comment monter une aile en marbre, comment la compléter par une aile en plâtre, et la forme se crée, mais on ne complète ni les bras, ni la tête. Ça reste une œuvre fragmentaire. On est loin du 16e, du 17e, du 18e siècle, de ces moments où il fallait absolument entièrement compléter une œuvre, quitte à ce que le Bernin, l'Algarde ou un autre réalise un bras, tête, pied, matelas, quoi que ce soit, pour parler des hermaphrodites du Louvre. Absolument. Mais et donc ça, c'est resté. En 33-34... On en reste à cette idée-là pour la statue. Pas davantage de tête, pas davantage de bras. Alors, à la marge, on réagence un pli ou deux, c'est mineur. C'est le bateau qui occupe. Alors, on l'avance pour des questions de vision dans l'escalier, et puis on modifie l'élévation du monument dans son ensemble. Fondamentalement, c'est donc une statue de victoire sur un bateau. En ajoutant un bloc intermédiaire, qu'on a longtemps dit en ciment, mais qui en fait est en marbre, on l'a fait analyser récemment, c'est du marbre de Carrare gris, assez rare d'ailleurs, parce que pas très bon.
Mais récent, installé récemment.
33. Oui, on rajoute ce bloc, c'est ce que dit le texte, pour améliorer la présentation, parce qu'il manquait un élément intermédiaire dans le bateau. Parce que, vous savez, la science invite à l'humilité. En 33, on était convaincus qu'on avait compris comment se présentait exactement ce type de bateau pendant l'Antiquité. Malheureusement, on avait tort.
Maintenant, vous êtes convaincus d'autre chose.
Bon, ça fait longtemps qu'on est convaincus d'autre chose. Pour les meilleures raisons de l'époque, avec la meilleure volonté du monde, on a rajouté ce bloc parce qu'on considérait qu'on verrait mieux la statue et que le bateau serait plus conforme à certaines monnaies antiques. On se trompait, et d'ailleurs on l'a assez vite senti parce que la restauration de l'avant du bateau, de la proue qui avait été modifiée aussi, a été dérestaurée quelques mois plus tard. On a laissé tomber une partie de la proposition, chose que tout le monde ignore. Il n'est resté qu'une partie du projet, c'est-à-dire ce bloc intermédiaire.
Cette proue était terminée par un éperon à l'origine?
À l'origine par un éperon, mais là on ne
fait. Ça, on ne l'a jamais vu.
On ne l'a jamais vu. Ouais. Mais en 33, on a changé un peu le départ de cette proue. Mais c'est fugace dans l'histoire de l'œuvre. Soit-il que ce bloc est resté, alors qu'il trahit l'œuvre à deux titres. Pendant l'Antiquité, maintenant nous le savons parce qu'on en a retrouvé sous le bloc moderne les traces. Pendant l'Antiquité, la statue était directement sur le bateau. Et dans sa première présentation historique au 19e siècle, elle était présentée directement sur le bateau. Alors, quand on a présenté ça en commission internationale, parce qu'on s'entoure d'une commission internationale pour prendre ce genre de décision, j'ai bien prévu 2 heures pour en parler à nos amis grecs, allemands, américains, en disant ça va être une bataille d'Hernani, est-ce qu'on enlève le bloc, est-ce qu'on le garde. J'avais fourbi mes armes, aiguisé mes couteaux, Jean-Luc Martinez était prévu en couverture, on allait charger, et on a expliqué ce que je viens de vous dire en 10 minutes. Et tout le monde s'est regardé en disant, mais le bloc de 33, c'est le reliquat d'un projet à moitié annulé quelques mois plus tard. Mais on s'arrête, on l'enlève. Et ça, ça a été un des plus beaux moments de ma vie professionnelle. J'aime pas le terme professionnel, mais de ma vie tout court, ma
vie d'amateur d'art. Oui, bien sûr.
Parce que moi, ça faisait des années que je connaissais l'histoire de ce bloc et que je commençais tout oppose sur la victoire de Samothrace, comme ça, en disant c'est la victoire de Samothrace, c'est niqué, saisi au moment où elle atterrit sur un bateau, faites abstraction du bloc moderne, il fausse la vision du monument, on a 50 cm en trop, mettez la main à cette hauteur-là pour comprendre le monument. Je l'ai fait en tant que prof, je l'ai fait en tant que chargé de TD, je l'ai fait à ma grand-mère, je l'ai fait à ma mère, je l'ai fait à tout le monde. Et quand on a pris cette décision, je me suis dit, voilà, on n'aura plus besoin de cette précaution oratoire, on revient à quelque chose. Mais l'état fragmentaire nous importe, et évidemment on le conserve. Alors, on le conserve, mais comme on apprend des choses, évidemment on le modifie un tout petit peu, mais c'est à la marge. Alors c'est pratiquement rien pour beaucoup, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Il y a des caisses de fragments qui sont arrivées. Alors, au 19e siècle, on a rajouté toute une série de fragments parce qu'on a su les mettre.
On a trouvé des palmettes, des fragments de couleurs aussi, des fragments colorés,
alors,
non?
Non, des fragments de draperies et des fragments de plumes.
Ah oui.
Alors, au 19e, la plupart des raccords ont été faits. Mais là, on a la main sur l'œuvre pratiquement. Alors, on a réouvert nos tiroirs de ces fragments rapportés par Champoison. On a réussi à en replacer un ou deux. Mais une grande plume, comme ça, de 30 cm au sommet de l'aile,
Ça la prolonge dans son dynamisme.
Oui, bien sûr, mais
c'est
très agréable. Et puis, on a trouvé de la couleur, mais de la couleur invisible. La couleur invisible pour les yeux, c'est pas génial.
Je sens que ça vous plaît, Régnier de Ricolet, la couleur invisible.
De la couleur invisible.
Je tease un peu, la couleur invisible.
De la couleur invisible, mais ça c'est formidable pour moi, ça commence à être intéressant.
Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire?
Ah bah, absolument.
Parce que toutes ces statues, pendant l'Antiquité, étaient peintes. On le sait. Bon, elles étaient peintes en bleu, en rouge, avec des demi-teintes parfois. On exagère sur la vivacité de ces couleurs. Parfois, il s'agissait aussi de rose, d'orange. On le sait. Pour la victoire de Samothrace, ça n'avait jamais été repéré. Or, là, nous étions devant face à un enjeu, à deux enjeux, essayer de mieux étudier la statue et essayer de ne pas faire de bêtises. Parce que quand on nettoie une œuvre, il faut faire attention à ne rien enlever qui serait perdu pour toujours. Donc, on a ausculté l'œuvre. Alors, avec des microscopes, avec des UV, avec des infrarouges, rien. Comme disent les Grecs, tipota, nada, niet. Alors, on était un peu déçus, et puis moi j'étais un petit peu méfiant aussi, en me disant, peut-être qu'on va nous le reprocher, de ne rien avoir trouvé. Alors, il a fallu persister. On a fait venir un Italien immatriculé à Londres, qui s'appelle Giovanni Verri, et qui travaille pour le Courtois Institute, qui a beaucoup regardé les marbres du British Museum. Alors lui a une lampe magique. Il n'y a pas d'autre terme, on se croirait dans une boîte de nuit à Ibiza dans les années 80. C'est une lampe à LED, bleu, rouge, vert, blanc. Ça excite la matière, mais le signal renvoyé par la lumière, on ne peut le voir que par le filtre à infrarouge qu'on place dans un appareil numérique. Mmh. Et là, une seule couleur, pas toute malheureusement, une seule couleur, le bleu égyptien à base de cuivre, fluoresce en blanc.
Sur quelle partie?
Alors, on prend rendez-vous, on y passe 3 jours, on s'enferme dans la cabine de restauration avec des sandwichs. Et on indique au bon Giovanni Verri de commencer par le bord d'un manteau, parce que c'est un endroit probable pour un décor peint. Dans les 10 premières minutes, on a trouvé la couleur. Pendant 2 jours, on n'en a pas retrouvé. Et donc, on a trouvé à ce moment-là une couleur qui est invisible à l'œil nu, qui est invisible au microscope. Mais avec cette technique-là, elle se révèle et on la voit uniquement de façon différée. Donc, on sait que le manteau de la victoire était souligné d'un galon de bleu. Et plus tard, pendant le week-end, on en a trouvé, mais de façon beaucoup plus diffuse, sur les plumes. Et là, manifestement, c'était du bleu et autre chose. Les ailes étaient peintes, mais alors d'une couleur qui pouvait être du bleu et du blanc, du bleu ciel, du bleu et du jaune, du vert canard. Quelle était la mode?
C'est respirant. Ça vous inspire ces reconstitutions, peut-être fictives?
Le côté, est-ce que c'est vraiment fictif? Parce que moi, tout de suite,
ça a l'air sérieux. Hein.
Ça a l'air d'être très sérieux. Et là, moi, je suis tout ouïe. J'adore ça parce que ça m'évoque tout de suite toutes ces photographies spirites du 19e sur l'idée de qu'est-ce qu'on peut choper sans le voir, qu'est-ce qu'on peut voir sans le sentir.
C'est joli comme comparaison.
Et ces photos spirites Aujourd'hui, on sait, comme dans les Victoires, on sait que c'est une arnaque totale, à part deux ou trois clichés peut-être. Ouais. Et
parce qu'il y avait ces excès personnages avec des ectoplasmes qui sortent de leur bouche. Absolument, oui.
Et vous savez comment est-ce qu'on parle de ça? Pardon, je vous interromps parce que après je vais oublier. On parle de fantôme de polychromie.
Et ben voilà.
Ouais, voilà. Vous avez raison.
On parle de fantôme de polychromie parce qu'on révèle en négatif, on devine. Mais bon,
je vais vous laisser tous les deux. Là, c'est trop bien.
Non, mais c'était pour dire.
Non, c'est vrai que même encore une fois quelque chose qu'on ne voit pas, on va le voir que par rapport à un filtre, cette couleur qui va commencer à apparaître, ça donne quand même une image, et une image ultra intéressante, même si elle est pas uniquement scientifique. De la même façon que toutes ces images qui ont été traitées au 19e pour essayer de voir des fantômes, même si on sait que ça marche pas, que c'est pas la vérité photographique, si c'est des montages, esthétiquement, c'est des choses qui sont sublimes.
Sublimes, c'est dit.
Et de la même façon, voilà, ça c'est vraiment des... Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'idée d'enregistrement spirit. Ça me plaisait beaucoup que des personnes sous hypnose parlent en grec ancien dont on avait oublié les termes, qu'on parle à sa grand-mère ou qu'on parle à des gens très connus. C'est du blabla et c'est des choses qui sont pour moi qui sont totalement fausses. Mais l'idée de pouvoir l'enregistrer, c'est pour ça que l'enregistrement est intéressant, et ces fragments d'enregistrement, puisqu'on les capte par les ondes, on essaye de les capter n'importe comment sur des cassettes, voilà. Et cette idée-là de choper quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, ça, je pense que c'est la meilleure façon de parler de ce que j'aime et de mon travail.
Mais dans votre travail, il y a la volonté de capter aussi les traces de mouvements disparus. Je me souviens de très beaux tableaux que vous avez faits, qui sont montrés à la galerie Franck Elbaz, sur des tracés qui se faisaient quasiment en dehors de votre volonté. Vous donniez simplement l'impulsion d'une toupie sur de la peinture ou de la cendre,
ce que c'était comme
matériau.
Pour être exact et pour préciser l'œuvre, c'est encore une fois un enregistrement. C'est l'enregistrement d'une toupie, qui a la trace d'une toupie sur noir de fumée qui est appliqué sur du verre. Donc c'est l'idée de capter ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, c'est très 19e pour moi encore aujourd'hui, puisque ça vient de Marais. C'est comment Étienne-Jules Marais capte le mouvement.
Le mouvement des ailes d'un bourdon dans un petit tube de papier recouvert de noir de fumée, les ailes du bourdon étant saupoudrées de poudre d'or.
Exactement. C'est exactement ça. Et
on est en 1891 à peu près.
Et juste avant ça, il y a cette idée, c'est pour ça que la musique, j'y reviens très très souvent, c'est juste avant ça, Martinville, qui est un Français qui s'est exilé aux États-Unis, invente pour la première fois l'idée d'enregistrer du son. Donc il enregistre du son, mais le problème c'est qu'il enregistre bien du son, mais le problème c'est que il n'a pas inventé la machine pour l'écouter. Donc il peut bien enregistrer du son, mais il ne peut pas du tout l'écouter. Nous, on redécouvre ça avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, qu'effectivement, c'était bien du son, effectivement, c'est bien au clair de la lune. Alors, on ne sait pas qui chante, si c'est sa petite fille.
On peut l'entendre sur Internet, je l'ai entendu déjà.
Oui, c'est une très, très, très belle chose. C'est le premier enregistrement au monde. Donc, pendant des années... Et ça rejoint aussi cette histoire de victoire. Pendant des années, on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'est une blague? Voilà. Et aujourd'hui, on peut écouter ce premier enregistrement au monde. Et comme aujourd'hui, je pense qu'il y a 50 ans, cette histoire de voir cette couleur qu'on ne voit pas était totalement impossible.
Impossible. Impossible. Impossible. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose. J'ai bien senti que vous releviez tout à l'heure. Et en fait, j'ai la même gêne que vous. Quand on parle de chef-d'œuvre, vous avez un peu...
Hocher la tête de façon négative. Oui.
Alors, je vais vous dire une chose que je pense en ce moment, parce que c'est ce qu'on trouve de nouveau, c'est la matérialité de ce qu'on voit dans un chantier de restauration. Bien sûr que c'est un chef-d'œuvre technique, un chef-d'œuvre sur le plan stylistique, etc. Mais ce qu'on découvre une fois qu'on enlève les bouchages, les badigeons, ce sont aussi des repentirs, des tâtonnements. Alors on s'aperçoit que le sculpteur a fait poser la statue sur sa base, et puis elle a été reculée de 40 cm. Tout a été rebûché au dernier moment. Panique.
Ça n'allait pas, donc il y a de la correction. Oui,
il y a de la correction. Sur la statue elle-même, on savait qu'il y avait plusieurs pièces rapportées, mais certains plis tout à fait modestes qui ne nécessitaient pas d'être taillés à part sont taillés à part. Je ne sais pas pourquoi, ça défie l'entendement. Alors,
mais c'est l'enregistrement de la pensée de l'artiste, de quelque chose d'invisible. Alors, qui est le tâtonnement de l'artiste.
Voilà,
au
fond. Là, en ce moment, on perçoit le tâtonnement de l'artiste. Et d'ailleurs, la notion de chef-d'œuvre est très intéressante parce que la réaction des uns et des autres n'est pas la même parmi nous. Il y a des gens qui disent, mais attendez, mais non, c'est pas un repentir, c'est un chef-d'œuvre. On ne peut pas se tromper, il n'a pas pu se tromper. C'est donc une restauration postérieure, c'est une restauration d'époque romaine. On cite les Romains, ça y est,
C'est les coupables, de toute façon.
C'est la cata.
Il
n'y
a pas d'art chez les Romains.
Voilà. Et d'autres disent, et j'en fais partie, mais attendez, un artiste génial a quand même le droit de s'y prendre à plusieurs fois, c'est ce que vous faites, Régnier.
Ça vous arrive, Régnier?
Donc, moi, je suis constamment dans l'expérimentation. Dans l'expérimentation, il faut revenir et le refaire. Et puis, il y a quelque chose aussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là dans une pièce comme La Victoire, où on dit, voilà, il y a du repentir. Le mec s'est trompé. Il s'est planté et il va faire autrement. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est ma façon de travailler aussi, encore aujourd'hui. Donc, bien sûr, avec d'autres éléments, bien sûr, avec, dans la dernière exposition, dans les deux dernières expositions que j'ai faites à la galerie à Paris chez Franck Elbaz, il y a à chaque fois une pièce qui ne devait pas être une pièce, qui était un truc qui était là à côté, qui m'a servi pour faire des pièces, mais en même temps, c'est encore une fois cette idée de fragment, et cette idée de fragment, cette idée des histoires de peinture, qui parlait beaucoup plus de peinture que les peintures que moi j'essayais de faire, justement. Et je trouve que c'est assez jouissif d'entendre aujourd'hui, même sur une pièce comme La Victoire, de dire, bah voilà, ouais, le mec s'est planté.
Mais il s'est pas complètement planté. Il y a quand même une sacrée réussite derrière, Ludovic Auger.
Il a très largement réussi son projet et c'est un tour de force, mais à certains endroits, il s'est un peu repris, il a un peu tâtonné, mais comme tous les grands artistes. Et ça, c'est super émouvant d'essayer de le comprendre, de le voir. Et c'est ce qui fait un peu le sel d'une restauration. Une restauration, c'est vraiment un moment privilégié pour laisser parler l'œuvre et lui faire dire des choses qu'on ne savait pas.
Merci Ludovic Laugier. Merci Régnier Le Ricollet.
Sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé une sculpture de l'Antiquité grecque, célèbre, La Victoire de Samothrace. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques, vous les avez reconnues, du groupe Les Aphrodite Child. C'était pour faire un jeu de mots, n'est-ce pas? Avec Demis Roussos dans les années 70. Le titre, c'était Aegean Sea. On a essayé d'être cohérent, hein, c'est pas mal. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Lecture des textes, Yann de Monterneau. À la technique, Pierrick Charles. Merci Pierrick. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy.
Come before you go, babe. Go until you come, babe. Come until you go.